il est guide de haute montagne, fondateur de Kailash Adventure, recordman du monde d'altitude en parapente biplace. Il a passé 8 ans au groupe militaire de haute montagne et il a été le 3e français au sommet de l'Everest sans oxygène. Éric Gramont, bonsoir.
Bonsoir.
J'aimerais tout d'abord que vous me parliez un peu de vous, cette passion pour la montagne, ce goût du risque et des sensations fortes. D'où cela vient-il ?
Bah, comme beaucoup, de mon père qui pratiquait la montagne, qui n'était pas guide mais qui pratiquait la montagne. Et qui m'a fait connaître l'escalade à l'âge de 16 ans. Et à partir de là, bah, j'ai fait l'école buissonnière pour aller grimper.
Il y en a beaucoup, bizarrement.
Je partais avec mon cartable, j'étais en biochimie. Je partais avec mon cartable et dans le cartable, il y avait la corde et les mousquetons. Et je faisais du stop et mes parents, ils pensaient que j'allais à l'école, mais non.
Ça allait voilà, grimper.
Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 mois. Et après, il a fallu que je fasse quelque chose quand même. Donc, je me suis engagé dans l'armée. Et là, j'ai trouvé une filière de rêve. J'ai été engagé par le groupe militaire de haute montagne. Et après, je ne l'ai plus quitté pendant 10-12 ans.
Donc, je le disais il y a un instant, vous êtes le 3e Français à avoir gravi l'Everest sans oxygène. Comment cette ascension s'est-elle préparée ?
Ben, elle s'est préparée déjà avec toute l'équipe du GMHM. Donc c'était un projet qui tenait à cœur au GMHM parce qu'ils avaient déjà fait une tentative en 81 et donc quasiment 10 ans après, on a un peu plus de 10 ans après, on a refait une tentative et cette fois-ci peut-être un peu plus légère que la première et surtout par le versant népalais alors que la première expédition en 81 avait eu lieu par le versant chinois.
Et donc les deux tentatives, c'était toujours dans le but d'atteindre le sommet sans oxygène ?
Alors non, je crois pas. Honnêtement, je suis pas sûr parce qu'en 80, moi j'y étais pas. Je suis rentré en 84 au GMHM. Mais en 80, il me semble qu'ils étaient quand même bien équipés parce que avec de l'oxygène. Parce que le versant, déjà à l'époque, c'était pas si évident que ça. Et puis surtout le versant chinois et tu restes plus longtemps en altitude au-delà du 8000 que par le versant népalais, donc c'est un peu plus délicat de le faire sans ox.
Et combien de temps donc vous avez mis pour atteindre le sommet, si vous pouvez nous faire un petit récit des différentes étapes, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs paliers, enfin ça se fait pas en 3 jours quoi d'atteindre le sommet de l'Everest.
Alors
c'est long.
On l'a fait en 3 jours en partant du camp de base. Enfin, moi, je l'ai fait en 3 jours en partant du camp de base. Mais ça a demandé 2 mois de présence de plusieurs personnes, de toute l'équipe, en fait, pour préparer les camps d'altitude. Donc, puisqu'on monte des camps d'altitude, on arrive au camp de base, on installe le camp de base. Ensuite, on installe le camp 1, le camp 2, le camp 3, le camp 4. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on fait plusieurs voyages aller-retour en altitude. Et une fois que tous les camps sont installés et alimentés, parce qu'il faut les charger en gaz, en nourriture, etc., en duvet et tout ça, une fois qu'ils sont chargés, ben là on lance les vagues d'attaque.
Donc on monte.
C'est bien bidasse là.
Là c'est sérieux.
C'est bien militaire. Donc on monte les vagues d'assaut et puis donc on a plusieurs équipes qui tentent leur chance continuellement jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais bon, si on a des bons renseignements météo et qu'on est prêt à ce jour-là, normalement ça passe assez bien. C'est quand même pas une montagne difficile, surtout par le versant népalais.
Donc vous avez réussi du premier coup.
Oui, ouais.
Et donc sans oxygène, d'un point de vue physique, je me demandais si la différence elle était si grande en fait. Est-ce que c'est réellement beaucoup plus compliqué qu'avec les bouteilles d'oxygène ?
Alors là, c'est un toubib serait plus à même de vous répondre, mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, nous, on avait fait des tests. On a eu la chance de pouvoir faire des tests, un peu comme l'expédition avec Éric Escoffier il y a quelques années, qui avait fait Turbo Everest et qui avait fait un séjour dans un caisson hypobar, pour simuler l'ascension. Et nous, on a eu la chance de faire ça pendant 5 jours ou 4 jours. À Grenoble. Et donc on s'est aperçu que certains avaient plus d'aptitudes que d'autres. Et rien à voir avec les aptitudes physiques, mais plutôt physiologiques. C'est-à-dire que notre corps, certains d'entre nous, avaient un corps qui assimilait plus facilement l'oxygène à basse pression. Donc du coup, on s'est dit, ceux-là, ils ont quand même plus de chances d'arriver sans ox que les autres. Donc comme c'était un peu quand même le challenge, c'était de mettre quelqu'un sans ox pour faire le 3e Français sans oxygène, eh ben bon, c'est tombé sur moi parce que j'ai eu la chance que ça m'arrive, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le physique. Il y avait des mecs qui étaient bien plus forts que moi dans l'équipe physiquement et qui n'avaient pas cette aptitude. Voilà. C'est juste une question de chance.
Beaucoup de chance en tout cas quand même. Hein.
Ouais, j'en ai toujours eu beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de conneries.
Donc je me demandais, enfin moi-même, mais j'imagine que la plupart de nos auditeurs ne sont jamais allés en haut de l'Everest, sur le toit du monde. Qu'est-ce qu'on ressent une fois là-haut? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Parce que nous, pour nous, ça paraît inimaginable. On n'arrive même pas à s'imaginer ce qui peut se passer là-haut.
En fait, ça, ça n'engage que moi, mais quand on est allé, bon, avant d'aller sur l'Everest, à cette époque-là, parce que c'était en 92, on avait tendance à d'abord aller sur d'autres sommets. D'autres sommets, des 7000, des 8000. Maintenant, c'est plus trop le cas. Maintenant, on consomme l'Everest comme on consomme un hamburger. Enfin bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce qu'il y a, c'est que là, avant, on voyait des 7000, des 8000 depuis le bas, donc qui nous écrasaient, un peu comme on regarde le Mont Blanc là. Et ce qui frappe, c'est que quand on est au sommet de l'Everest, on voit tous les 8000 ou tous les 7000 que l'on voyait d'en bas, on les voit en dessous.
Wow.
Un peu comme si on regardait l'aiguille du midi tous les jours, et puis qu'un jour,
elle est toute petite,
on va au Mont Blanc et on la regarde du Mont Blanc, et bien elle est toute petite. Alors qu'avant, elle nous écrasait, elle nous impressionnait. Voilà, c'est ça qui était impressionnant, c'est qu'on voyait le Lhotse, on voit le Makalu au loin, on voit le Jiashunkang, enfin, on voit le Kamet qui est juste à côté, le Shouyu, qui sont énormes. Et de l'Everest, ils sont ils font un peu plus petits, quoi. Et ça, c'est super impressionnant. Ça, c'est vraiment méga impressionnant. Et nous, on est resté une heure au sommet. Et grosso modo, on est resté une heure à regarder ça.
Une heure à 8000 mètres et tout allait bien.
Oui, ouais. Mais on fait pas d'efforts, on court pas. Hein.
Oui, j'imagine qu'on marche doucement.
Ouais, on fait pas les canards là-bas.
Et enfin, on a beaucoup parlé de l'Everest, mais vous êtes parti en expédition un peu partout dans le monde. Quel est votre meilleur souvenir, ou en tout cas un fait plus marquant que les autres?
C'est pas forcément montagne. Moi, ce qui m'a le plus halluciné, c'est un pays qui est à la fois... Parce que certains pays sont, on pourrait dire, beaux, mais mal habités, ou alors moches, mais bien habités.
Et il y en a un qui a les deux.
C'est un peu réac, mais j'ai trouvé l'Iran hallucinant, de beauté, et avec des gens hallucinants, de gentillesse. Et moi, le voyage qui m'a marqué le plus, c'est ça. Bon, forcément, l'Everest, ça marque. C'est parce que c'est un peu un graal pour un himalayiste. Mais j'ai fait un voyage en Iran pour faire le Damavand et puis un peu d'escalade et d'autres sommets. Mais c'est le pays qui m'a le plus subjugué, parce qu'il est beau, parce que les gens sont juste incroyables, à tel point qu'on a l'impression qu'il y a des caméras cachées de partout. Tu te dis, c'est pas possible.
Ils sont trop gentils.
Ouais, ils sont trop gentils. Ils sont trop gentils, mais c'est dans leur c'est dans leur gène.
Eh bien, merci beaucoup, Eric, d'avoir accepté de nous parler de ces expériences. Une petite pause et on vous retrouve dans quelques minutes pour parler malheureusement d'un triste constat, les conditions climatiques et écologiques inquiétantes en haute montagne. Nous retrouvons de nouveau Eric Gramont sur Globule Radio 90.5. Nous avons parlé de son ascension de l'Everest, de ses expéditions, de sa passion pour les sports extrêmes. Seulement, son outil de travail, la montagne, est en danger et il est grand temps de faire quelque chose. La surfréquentation des sommets, les déchets laissés un peu partout au bord des sentiers, le changement climatique, les moyens de transport polluants, autant de choses qui abîment petit à petit nos montagnes et mettent en danger notre belle nature, mais aussi les alpinistes. Eric, tout d'abord, j'aimerais savoir, vous de votre côté, en tant que guide, quel constat écologique faites-vous, notamment ici dans le massif du Mont Blanc, et est-ce si catastrophique que ça?
Oui, c'est catastrophique. On le voit tous les jours, avant tout par les glaciers. Pour vous donner une idée, plus près.
On a eu un petit souci de micro, mais on reprend.
Donc, pour vous donner une idée, sur l'année 2018, pendant la journée la plus chaude, la mer de glace a perdu 16 cm d'épaisseur. 16 cm d'épaisseur en une seule journée.
Wow.
Sur la journée la plus chaude. Et on est en 2019, on a eu des journées records, on a eu plusieurs jours de canicule. J'ose pas imaginer combien elle a perdu, mais juste ça, ça fait peur. Quand on voit la glace du triangle Utakul, elle date de 2500 ans. C'est-à-dire que elle a été faite il y a 2500 ans, et là elle est en train de fondre, elle est en train de disparaître sur la face nord du triangle Utakul. Quand on voit là on pratique beaucoup le parapente, on a vu l'évolution du décollage parapente que l'on fait au sommet des grands montées. On a l'impression qu'il y a des rochers qui poussent.
Qui poussent sous vos pieds comme des champignons.
Voilà, ça pousse de chaque côté du décollage. Et en fait, c'est pas ça, c'est juste le décollage qui fond. parce qu'on décolle sur le glacier des Grands Montées. Le décollage fond et petit à petit, ben, on n'a plus de décollage, on est obligé de se déplacer, la pente diminue, etc. Ça, on le voit de nos propres yeux, c'est-à-dire dans l'espace de 10-20 ans. C'est ça qui est juste hallucinant, parce que les glaciers ont déjà été plus hauts qu'ils ne sont, puisque les traces, le sol qu'ils découvrent, on relève des traces de végétaux. Donc, ils ont déjà vu la lumière. Mais à cette vitesse-là, jamais. Jamais, à cette vitesse-là, jamais. Donc, beaucoup de glaciologues disent qu'à la fin du siècle, 80% des glaciers des Alpes auront disparu. Donc, ça veut dire qu'à la fin du siècle, le Mont Blanc, on va le faire en basket.
Oui.
Ça va être le Kilimandjaro des Alpes. Et juste ça, moi, ça me fait flipper, oui, ça c'est sûr.
Donc vous avez fondé Kailash Adventure, une compagnie de guides ici à Chamonix. Et il n'y a pas si longtemps, vous avez déclaré dans une vidéo ne plus vouloir proposer de l'héliski à vos clients. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
Parce que ça tient, c'est plus défendable.
Pourquoi ?
Parce que c'est... En fait, faire de l'héliski, c'est un produit de luxe. Ce qu'on fait en héli, en hélicoptère, on peut le faire à la force des jambes. Et ça allait très bien, enfin je veux dire, c'était à peu près concevable tant qu'on ne s'apercevait pas de cette catastrophe. Mais là maintenant c'est hallucinant. Une heure de vol c'est 160 litres de kéro, c'est ce qu'il faut un camion pour traverser les Alpes. Donc ça veut dire que pour 4 personnes, parce qu'en général c'est 4 clients, pour le plaisir de 4 personnes, eh ben, on fait traverser les Alpes à un camion. Si ça choque personne, c'est sûr, il faut continuer. Mais il y a longtemps qu'on s'en est rendu compte. Il y a longtemps que beaucoup de guides ont arrêté de faire de l'héliski. Ce qui serait bien, c'est que les compagnies le disent. Même si elles le font déjà, il faut qu'elles le disent pour lancer quelque chose, un mouvement. Et j'irai même plus loin, les syndicats. Il y a des syndicats de montagne. Les syndicats devraient se mettre en ligne, en première ligne, pour dire oui, l'héliski c'est plus défendable. L'héliski, peut-être que ça nous fait vivre un peu, beaucoup, pour certains, mais c'est plus défendable. C'est quelque chose qui correspond plus à l'éthique de notre métier.
Et donc, au-delà de l'héliski, il y a aussi le problème de la surfréquentation. Vous avez certainement dû voir cette photo de centaines d'alpinistes à la queue leu-leu sur la crête qui rejoint le sommet de l'Everest. Cette photo a fait le tour du monde en mai dernier, mais qui est une saison propice pour l'ascension de l'Everest, mais qui s'est terminée avec un bilan de 11 morts. Quand vous avez vous-même fait l'Everest, est-ce qu'il y avait déjà ce problème de surfréquentation et est-ce, selon vous, devenu trop accessible ?
Alors, non, il n'y avait pas ce problème de surfréquentation en 92. On était nombreux, on trouvait qu'on était nombreux, on trouvait qu'on était déjà trop nombreux, mais ça n'avait rien à voir. En fait, si on compare à la photo qu'on a vue au mois de mai, il n'y avait personne, c'était le désert.
On était 10, on était 10.
Voilà, ouais. Ça fait peur parce qu'en fait, l'Everest n'est pas plus accessible, la montagne n'a pas changé, il faut quand même prendre des sherpas et des porteurs, la logistique est la même. Le seul problème, c'est que maintenant on vend l'Everest avec de l'oxygène et que demain on le vendra à coup d'hélicoptère. Et c'est sûr même, puisque il y a une quinzaine d'années, un hélicoptère s'est posé au sommet de l'Everest. Bon, c'était un hélicoptère léger.
Mais ça vole à cette altitude ?
Oui, ça, ils ont modifié l'hélicoptère, ils l'ont allégé, il n'y avait qu'un pilote à l'intérieur. Il a posé un patin et il est reparti. Et je me rappelle d'ailleurs qu'un collègue, Hubert Giot, avait écrit une petite histoire à la suite de ça en disant « Mais c'est la fin de l'Himalaya, c'est la fin de l'himalayisme ». Parce que c'est bientôt, dans 50 ans, ça sera un coup d'hélico pour ceux qui veulent descendre à ski, un coup d'hélico pour ceux qui veulent descendre en parapente, et puis avec les tour opérateurs qui feront des vols panoramiques. Enfin, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Et là, on est en train de, on y va tout droit parce que faire miroiter l'Everest à des gens en leur proposant 7 bouteilles d'oxygène alors que normalement 3 sont suffisantes. De façon à ce qu'ils y arrivent, parce que faut pas rêver, quand quelqu'un va au sommet de l'Everest avec 7 bouteilles d'oxygène, c'est comme s'il faisait un 6005 à 7000. Mais en fait, ce qui est important, c'est la photo.
C'est Instagram.
C'est pas l'oxygène. Voilà, oui, mais c'est ça, c'est qu'on est une société de consommation et ce qu'on veut, c'est consommer. Alors, oui, la rendre accessible, d'accord, mais il y a des limites. On est fautif pour ça, on est entièrement fautif. Certains disent que c'est le gouvernement népalais. Non, c'est nous. C'est nous parce qu'on les vend.
Et on parle beaucoup donc de l'Himalaya depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'ici à Chamonix, dans le massif du Mont Blanc, on a le même type de problème en fait? Et quelles seraient les solutions? Est-ce que pour aller au sommet du Mont Blanc, pareil, c'est hyper fréquenté, on croise je sais pas combien de personnes?
Oui, parce qu'en fait, c'est les hauts sommets qui font aimant et qui attirent tous les gens. Donc le Mont Blanc, il attire tout le monde parce que c'est le plus haut. Et bien, parce que je vais être méchant, mais ça fait bien sur la carte de visite, c'est sûr. Mais bon, j'étais le premier à l'utiliser. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on est une société de consommation et qu'on voit la clientèle qui est différente et qui vient pour un coup et qui s'en va. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est faire le Mont Blanc et puis après ils s'en vont. Donc on se demande si c'est pour la photo sur Facebook ou Instagram ou si c'est vraiment pour pratiquer de la montagne. Quand on leur dit, nous on est plutôt adeptes de leur dire non, on va pas là-haut pour un sommet. L'objectif, c'est de se faire plaisir et d'être en montagne. L'objectif, ça n'a jamais été le sommet. Bah, c'est super, c'est de plus en plus dur à faire accepter à la clientèle. Dire non, on va faire sommet, oui d'accord, on va essayer de le faire. Mais on va essayer avant tout d'être en montagne et de vivre en montagne. Le sommet, c'est accessoire. On y arrive si on a de la chance, avec le temps, avec les conditions, etc. Mais avant tout, c'est d'être en montagne. Bah ça, on a de plus en plus de mal à leur faire comprendre, à faire comprendre à notre clientèle. Et le Mont Blanc, bah, c'est un peu ça. Le Mont Blanc, si dans 50 ans, si ça se trouve, il aura perdu 100 mètres d'épaisseur.
Et plus personne ne trouvera
plus,
un intérêt.
Il sera plus intéressant, puisqu'il ne sera, sera pas le plus haut. Donc,
Eh bien, merci beaucoup, Éric Gramont. Et avant de vous retrouver pour justement parler plus en détail du Mont Blanc et de son accessibilité, les célèbres questions au chapeau. Alors, je vous explique le principe. Yael tient comme une petite boîte dans ses mains. Il va falloir piocher deux petits papiers et répondre du tac au tac.
Hop. À deux.
Deux. Ah bah oui, quand même. Alors, Yael va vous lire les questions.
Alors, Éric Gramont, que feriez-vous s'il vous restait une seule journée à vivre?
Oh, c'est banal ça.
C'est banal quand même, hein. Moi je sais pas ce que je ferais, hein.
Si j'avais qu'une seule journée à vivre, bah, je serais partagé entre la vivre avec les miens, mais au risque de les faire pleurer. Donc je sais pas si ce serait une bonne option. Je pense que je préférerais j'en sais rien, j'irai en haut de là. Non, je sais, honnêtement, je sais pas.
C'est j'irai, trop banal.
Je
c'est
m'envolerai
trop banal,
en parapente. Je m'envolerai en parapente et j'essaierai de faire un vol magnifique de je sais pas où.
Dernier
donc,
vol.
Je ferai mon métier en fait. J'essaierai de faire mon métier parce que j'adore.
L'avantage de faire son métier avec passion.
Et seconde question, si vous pouviez assister au concert d'un artiste disparu, qui est-ce que vous choisiriez?
Comment il s'appelle? Moi, je l'appelle Assi Bonanga.
Assi Bonanga. Bon, on ne sait pas qui c'est.
Si, enfin. C'est lui qui est décédé il y a peu de temps.
Oui, mais...
Oh.
Bah.
Voilà, d'Afrique du Sud, là, le chanteur africain.
Ah oui, Zou. oui, c'est vrai.
Johnny Clegg.
Johnny Clegg.
Johnny
voilà.
Clegg.
Ouais, j'aimerais bien.
Eh bien, merci beaucoup, Eric.